بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous arrivons à la deuxième partie du hadith numéro 10, celle qui est consacrée aux invocations. Et je vais vous relire le hadith en français afin que vous suiviez l'enchaînement. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, j'ai entendu le prophète de Dieu dire: Dieu le Très-Haut est pureté et n'accepte que le pur. Il prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit à ses envoyés quand il proclame: ô prophète, mangez de ce qui est licite et agréable, c'est-à-dire bon pour la santé. Ou encore: ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses dont nous vous avons gratifié. Puis, et là c'est la deuxième partie qui nous intéresse, l'envoyé mentionna le cas d'un homme aux cheveux ébouriffés et couverts de poussière du fait de ses longs voyages. Et qui tend ses bras vers le ciel en disant: Seigneur, Seigneur! Or ce qu'il mange, ce qu'il boit, la nourriture dont il s'est rassasié, tout cela lui est illicite. Comment pourrait-il bien être exaucé? Donc le prophète alayhi salam, après avoir mis l'accent sur la nécessité de faire preuve de prudence dans le choix de nos aliments, c'est-à-dire de discerner ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bon ou nocif pour la santé, et de faire attention aux moyens par lesquels nous achetons où nous nous procurons notre nourriture, c'est-à-dire bien souvent notre argent, et de se demander s'il est licite. Il nous dit ensuite: sachez que la nourriture illicite peut avoir une répercussion négative sur vos adorations, et tout particulièrement l'invocation. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi Dieu ne répond-il pas parfois à nos invocations? Qu'est-ce qui fait que nos chances d'être exaucées sont diminuées? Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait barrière entre nous et la réponse de Dieu à nos attentes, à nos demandes? Vous avez une réponse très claire dans le hadith du prophète, lorsqu'il nous parle de cet homme. Vous allez voir quand on va prendre le descriptif qu'a peint le prophète de cet homme, de son état, de ce qu'il va faire, vous allez voir que en apparence, toutes les conditions sont regroupées afin que Dieu exauce son invocation. Parce que cet homme, d'abord, il se trouve à un moment où Dieu répond favorablement aux demandes. Le voyage. C'est un homme qui voyage. Deuxièmement, cet homme est dans un état lamentable qui fait pitié. C'est-à-dire qui pousse Dieu à quoi? À le prendre, à le faire entrer dans sa miséricorde. Le prophète nous dit qu'il a les cheveux ébouriffés, hirsutes, qu'il est couvert de poussière, donc il est forcément très fatigué. Il est faible. Donc cet état de besoin nous rappelle son état de serviteur devant son Créateur. Et plus tu seras humble, tu feras montre de soumission devant Dieu dans tes invocations, et plus Dieu va te répondre. Troisièmement, cet homme lève les mains au ciel, et le prophète nous invitait à le faire. Donc il fait preuve de politesse avec Dieu. Quatrièmement, cet homme insiste. Il dit: Seigneur, Seigneur, Ya Rab, Ya Rab. Et l'insistance dans l'invocation, c'est également quelque chose qui est demandé. Et il dit: Ya Rab, mon Seigneur. Donc il reconnaît la seigneurie de Dieu et donc miroir son état de serviteur. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit le prophète? Comment Dieu pourrait-il bien répondre à son invocation? Pour quelle raison? Car il a consommé ce qui est illicite. Donc la première des raisons qui va faire barrage entre nous et l'exaucement de nos invocations, ce sont les péchés. Et parmi les péchés qui font le plus grand obstacle, ce sont la consommation de l'illicite, le fait de se revêtir de vêtements illicites et de posséder des choses illicites. Et ici, pourquoi est-ce que le prophète alayhi salam prend comme exemple la nourriture, le vêtement et la boisson? Parce que ce sont des besoins vitaux. Et il est en train de nous dire, faites attention, vous êtes tous concernés, puisque vous vous nourrissez tous, vous vêtissez tous et vous buvez tous. Donc vous êtes tous concernés et vous pouvez tous vous retrouver à la place de cet homme. Ensuite, ici, on pourrait croire, d'après les propos du prophète, que toute sa boisson, toute sa nourriture, tous ses vêtements sont illicites. Mais ce n'est pas vrai. Il suffit qu'une partie de tes vêtements, de ta nourriture, de ta boisson soit illicite, pour que Dieu ne réponde pas favorablement à tes invocations. Également, rien ne nous dit clairement que, d'après ce hadith, que Dieu ne répondra jamais à quelqu'un qui a fait un péché. On ne peut pas tirer de ce hadith cette vérité. Il y a toujours un doute. On ne peut pas dire à quelqu'un qui fait des péchés, sache que Dieu ne répondra jamais à tes invocations. Parce que le prophète, il s'est simplement étonné. Il a dit, mais comment Dieu pourrait-il bien répondre à son invocation? C'est un étonnement. C'est-à-dire que sa probabilité de voir ses invocations être exaucées est faible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. La preuve, c'est que dans un autre hadith, le prophète nous dit que Dieu répond aux invocations de celui qui subit une injustice, l'opprimé, même s'il est non-musulman. Pourtant, le non-musulman se nourrit, se vêtit et boit que de l'illicite, aux yeux des musulmans. Et pourtant, Dieu lui vient en aide, parce qu'il est juste. Ce n'est pas parce que le serviteur a fait des péchés que Dieu va être injuste envers lui. Ça, c'était le premier type de péché, la consommation de ce qui est illicite. Un deuxième péché qui pourrait faire barrière, c'est le délaissement de l'obligatoire. Le premier, c'est quoi? La transgression de l'interdit. Nous sommes maintenant dans le délaissement de l'obligatoire. Quand tu délaisses ta prière, ta zakat, l'obligation de bien te comporter avec tes parents, l'obligation d'être honnête, etc. Il se peut que Dieu ne réponde pas à tes invocations. Et parmi les piliers de l'islam qu'on délaisse parfois, c'est l'incitation au bien, inviter les gens au bien, être des bienfaiteurs, et s'opposer, résister devant les injustices, devant le mal, changer le blâmable, ne pas être spectateur devant quelque chose qui serait contraire à nos principes. Le prophète a dit dans un hadith, vous appellerez les gens au bien, vous vous opposerez au mal, ou bien, qu'est-ce qui va se passer si cela n'est pas fait? Vous allez invoquer Dieu quand l'injustice et le mal va se répandre. Et Dieu ne répondra pas à vos invocations. Parce que vous avez délaissé ce qu'il vous a demandé. Et ça, c'est à titre personnel, dans ta vie familiale, dans ta famille, mais aussi au niveau social, à l'échelle de la société, et peut-être même à l'échelle planétaire. On doit condamner les injustices. Ou sinon, on va être de connivence, on va être complice de quoi? De la propagation des injustices sur terre. Et l'invocation ne servira à rien. D'ailleurs, il est rapporté que Dieu a demandé à un ange, dans les générations précédentes, dans les communautés qui ont précédé celle de l'islam, il a dit à un ange de détruire une cité, de l'anéantir, car ses habitants étaient rebelles, ils étaient injustes. Et l'ange, avant d'obtempérer, il va s'adresser à Dieu en lui disant « Oui, mais Seigneur, parmi les gens, il y en a un qui t'adore. Il est chez lui, il ne fait que t'adorer. Donc est-ce que il va subir le malheur ?» Et Dieu va dire « Tu commences par lui. » Parce que il s'est pas opposé au mal. Tu commences par lui car il était spectateur et c'est peut-être à cause de lui que le mal s'est répandu. Parce qu'il n'a rien fait. Il a pensé à lui, il s'est enfermé chez lui, il a adoré Dieu et il a délaissé ses frères. Donc il est peut-être à l'origine de ce mal. En tout cas, il est sûrement complice. Qu'est-ce que dit Dieu dans le Coran ? Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, qu'ils sachent que je suis tout prêt, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Je suis tout prêt et j'exauce les invocations de mes serviteurs. Mais regardez, pas de manière absolue. Juste après, Dieu dit qu'il répond donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Dieu te promet de répondre à tes invocations, mais juste après, il te dit la condition. Alors, ils devront répondre à mon appel, c'est-à-dire appliquer ma religion autant qu'ils le peuvent, afin que je leur donne ce qu'ils veulent. C'est donnant-donnant. Le troisième péché qui pourrait faire obstacle, c'est l'hypocrisie de l'être humain. C'est-à-dire que il nous arrive parfois, dans des situations d'aisance, quand tout va bien, on oublie Dieu. Et quand on est touché par un malheur, on se réveille et on tend les mains vers le ciel. Et ça peut parfois ne pas marcher. Parce qu'il y a un peu d'hypocrisie. Pourquoi tu te souviens de Dieu que quand tu penses avoir besoin de lui? Et avant, Dieu nous dit dans le Coran, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Et lorsque nous comblons l'homme de bienfait, il se détourne de nous et nous fuit. Mais lorsqu'un malheur l'atteint, il ne tarit pas de prière. Également, l'homme peut faire preuve d'hypocrisie en étant ingrat. Il désobéit à Dieu après que son Seigneur ait répondu favorablement à ses demandes. C'est-à-dire qu'il a demandé à Dieu certaines choses, Dieu lui a donné, et ensuite, au lieu de le remercier, il devient ingrat. Et Dieu nous dit « وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quand un malheur atteint l'homme, il nous appelle à son secours, qu'il soit couché sur le côté, debout ou assis. Mais aussitôt que nous l'en délivrons, il reprend son train de vie comme s'il ne nous avait jamais sollicité de le débarrasser de ce qui l'accablait. C'est ainsi que les plus mauvaises actions se trouvent embellies aux yeux de leurs auteurs. » Donc quand il reprend un train de vie normal, il commence à quoi ? À oublier Dieu et à même à lui désobéir. Également, parmi les signes de l'hypocrisie, c'est le fait... Alors quand je dis hypocrisie, attention, je ne parle pas de l'hypocrisie qui nous mène en enfer directement, celle du cœur. Celui qui dit être musulman, mais au fond, il ne croit ni en Dieu, ni aux prophètes, ni aux anges. C'est un hypocrite pur et simple, hein. On ne parle pas de l'hypocrisie des actes, parce qu'il y a une différence entre l'hypocrisie du cœur et l'hypocrisie des actes. L'hypocrisie des actes, on est tous touchés parfois, comme a dit le prophète alayhi salam, trois choses, si elles se retrouvent dans une personne, il est totalement hypocrite. Et si l'une de ces choses est en lui, alors il est en partie hypocrite. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'on lui dépose une chose à garder, à conserver, de l'argent par exemple, un prêt, il ne fait pas attention. Et dans une autre version, un quatrième vice, lorsqu'il se dispute, il devient très très violent et injurieux. Ça peut tous nous arriver. Donc une partie d'hypocrisie pourrait être dans notre cœur ou à travers nos actes. Donc là, je vais vous parler d'une hypocrisie qui peut nous toucher. Celui de ne pas implorer Dieu toujours, en permanence. Parce qu'à un moment donné, tu crois que tu peux te passer de Dieu. Donc tu ne l'implores pas. Et quand on est dans la difficulté, là on se rend compte qu'on n'est rien sans Dieu et on commence à l'implorer. Il y a un peu d'hypocrisie, un peu. Abu Hurayra rapporte, le prophète a dit, celui qui aimerait que Dieu réponde à ses demandes quand il est submergé par les soucis et les difficultés, qu'il multiplie les invocations quand tout va bien. Quand tout va bien. Qu'il fasse beaucoup d'invocations. Et dans un autre hadith, Dieu se met en colère quand l'adorateur ne l'invoque pas, ne lui demande rien. Dieu est en colère. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de t'implorer. Tout le bonheur dans lequel je me trouve, c'est grâce à moi. Donc je n'ai pas besoin de quoi de t'implorer. Et ce comportement, il est à l'inverse du comportement naturel des humains. C'est que nous, on se met en colère quand on nous demande. Dieu, c'est l'inverse. Quand tu ne lui demandes rien, il se met en colère. Parfois, l'hypocrisie, elle est dans le fait de ne pas tenir ses promesses. Parce qu'il nous arrive parfois de lever les mains au ciel et de dire, ô Seigneur, si tu me donnes, je te promets que. Si tu me donnes un enfant, si tu me donnes une voiture, un job, une femme, je te promets que je reviendrai. Je te promets que je ferai. Et parfois, on ne remplit pas nos promesses. Allah Azzawajal nous parle de deux cas de figure. Et là, il parle des vrais hypocrites. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Il y a parmi eux des gens qui disent, ô Allah, ô Seigneur, si tu nous fais largesse, tu nous donnes de l'argent, assurément, nous allons faire des aumônes, nous allons dépenser cet argent pour te plaire. Et Allah nous dit, et quand j'ai répondu à leurs demandes, ils se sont montrés avares. Un autre cas de figure, فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَانَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Un homme et une femme, nous dit Allah Azzawajal, un couple qui a demandé à Dieu de leur donner un enfant, et quand la femme est tombée enceinte, ils ont dit, ô Allah, fasse que cet enfant soit en bonne santé, que ce soit quelqu'un de bien. Et Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé. Mais ils ont fini par quoi? Par se montrer ingrats ensuite. Donc, le premier péché, c'était la consommation de ce qui est illicite ou la transgression des interdits. Le deuxième péché, c'est le délaissement de l'obligatoire. Le troisième péché, c'est l'hypocrisie. Un quatrième péché, la mort du cœur. On interrogea Ibrahim ibn Adham, et certains disent que c'est Ibrahim ibn Ishaq. Bref, en tout cas, cet homme saint, vertueux, a été interrogé par des gens. ils sont venus se plaindre à lui et lui ont dit « Pourquoi donc Dieu ne répond-il pas à nos invocations ?» Voilà ce que va répondre Ibrahim, et c'est une réponse à méditer, parce que elle fait peur un peu. Elle fait peur. Il dit « Car la mort de vos cœurs ont été provoquées par 10 péchés, ou bien par 10 choses. Premièrement, vous connaissez Dieu et pourtant vous délaissez ses enseignements. Vous connaissez Dieu et pourtant vous ne lui obéissez pas. Deuxièmement, vous connaissez le prophète, mais vous avez délaissé ses enseignements, sa sunna. Troisièmement, vous connaissez le Coran, vous l'avez entre vos mains, mais vous ne l'appliquez pas. Vous profitez des bienfaits de Dieu sans le remercier. Vous dites que le paradis est une vérité sans chercher à y entrer. Vous dites que l'enfer est une réalité sans chercher à le fuir. Vous dites que le diable est votre ennemi et plutôt que de le combattre, vous le suivez. La mort vous est connue et personne ne s'y prépare. Vous enterrez vos morts et cela ne vous sert pas de leçon. Vous vous levez le matin et la seule chose qui vous préoccupe, écoutez bien le dernier, vous vous levez le matin et la seule chose qui vous préoccupe, ce sont les défauts des gens, alors que vos propres défauts, vous les oubliez. Donc tout ça, selon cet homme, c'est ce qui peut provoquer la mort d'un cœur, et un cœur mort, ou un cœur dépéri, c'est-à-dire qui n'a plus vraiment la foi, c'est un cœur qui n'attire pas l'attention de Dieu, en tout cas dans l'exaucement des invocations. Donc faut être très attentif et essayer au maximum d'obéir à Dieu, d'essayer de lui plaire et d'éviter ses interdits pour qu'il ne soit pas en colère contre nous et qu'il ne réponde pas à nos invocations parce qu'on a vraiment besoin de lui. Un autre type de péché, c'est l'abandon et le désespoir dans nos invocations. D'après Abu Huraira, le prophète a dit « Dieu répond à vos invocations tant que vous ne vous précipitez pas, en disant « J'ai invoqué et pourtant je n'ai pas eu ce que je voulais. » On invoque Dieu et à un moment donné on se lasse, on désespère, on arrête. On dit « Dieu ne veut pas me donner ou ne m'a pas donné. » Si on arrive à ce point de désespoir, Dieu ne te donnera pas. Mais si tu gardes espoir et tu invoques Dieu, un jour ou l'autre, il te donnera. Donc nous avons dit que la première raison, le premier obstacle, la première barrière qui fait face à l'exaucement de nos invocations, ce sont les péchés qui provoquent la colère de Dieu. Maintenant, c'est l'inverse que je vais vous dire. Dieu peut ne pas répondre à ton invocation parce qu'il t'aime. Et on va savoir pourquoi. Le premier signe d'amour qui explique pourquoi Dieu peut parfois ne pas répondre à tes invocations, c'est le fait que, par ignorance, tu peux demander dans tes invocations le mal. Tu penses demander le bien, mais en fait tu demandes un mal. Mais tu ne le sais pas. Dieu a dit « Entretenez de bons rapports avec vos femmes. » Et si vous avez de l'aversion pour certaines d'entre elles, sachez que l'on peut avoir parfois de l'aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. Donc quelqu'un qui vit un conflit dans son couple peut demander à Dieu dans ses invocations, « Ya Allah, je n'en veux plus. Fasse que je divorce, fasse qu'elle me quitte ou qu'il me quitte, possible. » Et Dieu dit, « Non, il se peut que vous ayez de l'aversion pour votre épouse. » Et l'inverse est vrai. Alors qu'il y a dans cette épouse ou dans ce mari une source de bonheur. Comment ça? C'est ma source de malheur. Et Dieu me dit, ça peut être source de bonheur. Na'am. Les savants, en expliquant ce verset, disent, il se peut que ton bonheur soit dans sa progéniture. Cette personne en elle-même, tu ne l'aimes pas, mais peut-être que tu vas être heureux parce que tu auras des enfants de cette femme ou de cet homme qui vont te rendre heureux. ou bien parce que le mariage, au final, te préserve. Si tu délaisses le mariage, tu peux te retomber dans le péché. Et donc le bonheur spirituel serait dans le fait de rester marié. Toute proportion gardée, bien entendu. À un moment donné, il est clair que, à un moment donné, ça, le divorce est un une délivrance parfois. Mais... Et Dieu dit dans un autre verset, « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui constitue pourtant un bien pour vous. » Tu n'aimes pas quelque chose, et c'est pourtant quelque chose de bien. « Et il se peut que vous chérissiez une autre, alors qu'elle constitue un mal pour vous. Dieu le sait, mais vous, vous ne le savez pas. » Donc notre science, elle est limitée. Donc si Dieu ne répond pas à nos invocations, fais-lui confiance. Peut-être que Dieu sait que s'il te donne ce que tu as demandé, ça sera un mal pour toi. Donc il peut parfois te priver par amour, pas par colère. Parfois, tu demandes le mal, pas par ignorance, mais par empressement. T'es pressé, et le fait d'avoir la chose maintenant, ça sera un malheur pour toi. Plus tard, à un moment opportun que Dieu aura décidé, cette chose sera bonne pour toi. Dieu dit, l'homme demande dans ses invocations le mal, tout comme il demande le bien. Car l'homme est par nature toujours pressé. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'homme est pressé. Quand il demande, il veut que ça vienne tout de suite. Alors que le moment n'est peut-être pas le meilleur. Parfois, tu demandes le mal, car tu te laisses impressionner par les apparences. Le prophète, alayhi salam, dans un hadith authentique, rapporté par le Bukhari, nous dit que trois bébés ont parlé dans leur berceau. Un miracle. Trois nouveau-nés ont parlé alors qu'ils étaient encore tout petits. Il nous dit Jésus, fils de Marie, Isa. Le bébé qui est dans l'histoire de Juraïj. On ne va pas la citer, cette histoire. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier bébé qui a parlé. Le prophète nous dit, une femme allaitait son enfant quand elle aperçut un homme riche, opulent, connu, qui se pavanait sur son cheval, sa monture, accompagné de son cortège. Et impressionnée par cette apparence, elle dit à Dieu dans son invocation, « Ya Allah, je te demande de faire de mon enfant, que mon enfant connaisse le sort de cet homme, qu'il soit riche, connu, etc. » Et là, l'enfant regarde sa mère et lui dit, « Ya Allah, il s'adresse à Dieu en disant, « Ô Seigneur, je ne veux pas être comme cet homme. » Ensuite, elle va voir une autre scène. Une femme que les gens poursuivaient et frappaient et insultaient en l'accusant de quoi ? De vol. Tu es une voleuse, tu es une voleuse. Et là, la mère dit, « Oh Allah, je ne veux pas que mon fils ou ma fille devienne comme elle. » Et là, l'enfant prend la parole et dit à Dieu, « Oh Allah, je veux être comme cette femme. » Et là, étonnée, la maman dit, « Pourquoi donc ? Quand j'ai demandé à Dieu à ce que tu ressembles à cet homme opulent et riche, tu n'as pas voulu. Et quand j'ai voulu te prémunir du sort de cette femme, tu l'as demandé. » Et là, l'enfant va dire, « Car cet homme, c'est un tyran, et cette femme, c'est une innocente. » Voilà. Donc là, la femme a levé les mains au ciel pour demander quoi ? Quelque chose qu'elle croyait, d'après les apparences, que c'était une bonne chose, et l'inverse. Parfois, nous demandons le mal par manque de sagesse. Anas ibn Malik rapporte que le prophète, alayhi salam, est parti rendre visite à un homme malade. Tellement malade qu'il n'avait que la peau sur les os. Il est devenu rachitique, faible, extrêmement maigre. Et dans le hadith, on dit comme un poulet, squelettique. Et là, le prophète lui dit, as-tu invoqué Dieu ? Et l'homme dit oui, je disais à Dieu dans mes invocations, ô Seigneur, les souffrances que tu me réservais dans l'au-delà, je veux qu'elles me soient infligées maintenant sur terre. Anticipe mon châtiment sur terre. Et là, le prophète s'exclame, gloire à Dieu, tu ne peux pas supporter ce que tu as demandé. C'est impossible. Pourquoi n'as-tu pas dit, Seigneur, accorde-nous un sort heureux, une belle part dans ce monde et dans la vie future, et préserve-nous des tourments de l'enfer. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Pourquoi t'as demandé le mal? En fait, lui, quand il a demandé ça, il pensait faire le bien, mais c'était un manque de sagesse. Et le prophète lui a enseigné la bonne invocation à dire. Donc si Dieu parfois ne répond pas à tes invocations, c'est parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu peux demander le mal par ignorance, par empressement, par manque de sagesse et parce que tu te laisses impressionner par les apparences. Maintenant, Dieu peut considérer qu'il est dans ton intérêt de ne pas t'accorder ce que tu as demandé immédiatement, mais plus tard. Regardez Yaakov, le père de Joseph. Il sait que son fils n'est pas mort, comme l'ont prétendu ses frères, mais qu'il est vivant, mais loin de lui. Et il va pendant des dizaines d'années pleurer la séparation entre lui et son fils, à tel point qu'il va en perdre la vue. Et je suis sûr et certain, dans ses invocations, il a demandé à ce que Dieu, lui, fasse retourner son fils, lui rende son fils. Mais Dieu en a décidé autrement. Il a voulu que Joseph passe par des épreuves pour un jour se retrouver à la tête du ministère des Finances en Égypte, qu'il sauve sa société, les sociétés aux alentours, et qu'il reçoive ses frères chez lui, et qu'il demande à ses frères de ramener son père, et qu'à la fin, toute la situation se rétablisse entre lui et sa famille. Donc si Dieu avait rendu Joseph à son père, je pense que la jalousie n'aurait pas disparu entre lui et ses frères. Mais Dieu a voulu que la famille se recompose, qu'il y ait un regroupement familial des dizaines et dizaines d'années plus tard. Et c'était dans l'intérêt de tout le monde. Également, Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit « Wa qala Moussa » Ici c'est Moïse et Haroun qui font une invocation. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم etc. Moïse, devant la tyrannie, l'oppression de Pharaon et de sa cour, des gens nobles qui avaient le pouvoir, il fait une invocation et son frère Haroun dit Amin derrière lui. « Ya Allah, tu as donné à Pharaon et à ses notables de l'argent et des délices. Ô Allah, je te demande de sceller leur cœur et je te demande d'anéantir leur richesse. » Et qu'est-ce que répond Dieu ?« Qad ujibat da'watukuma fastaqima » J'ai répondu à votre invocation. J'ai exaucé votre demande. Et vous savez ce que disent les commentateurs? Dieu a dit, j'ai exaucé. Mais c'est 40 ans plus tard que Pharaon mourra dans les eaux. Donc Dieu dit, j'ai répondu à ta demande. C'est bon. Mais pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est bon, j'ai accepté. Je vais réaliser ta demande. Et lui dit, mais il l'a réalisé 40 ans plus tard. Dieu est plus sage. Mieux que cela, Dieu parfois considère qu'il vaut mieux ne pas te donner ce que tu as demandé sur terre, mais dans l'au-delà, le jour de la résurrection. Dans un hadith, Dieu s'adresse à son serviteur le jour des comptes. Et il dit à l'un de nous, « Pensais-tu que certaines de tes invocations étaient exaucées et d'autres non ?»« Oui, répond cet homme. » Dieu lui dit alors, « J'ai répondu favorablement à toutes tes demandes. N'as-tu pas été témoin de la réalisation de telle et telle invocation ?»« Oui, effectivement, répond l'homme. Je t'ai demandé, tu m'as donné sur terre. » Dieu continue en disant, « Pourtant, tu m'as demandé certaines choses sans les recevoir. » « Oui, répond le serviteur, je reconnais que parfois je n'ai pas eu ce que j'ai demandé. » Et là Dieu lui dit, « Sache que je te les ai réservés au paradis. » Ce que tu m'as demandé, je te les ai réservés au paradis. Ensuite Dieu lui énumérera toutes ces choses qu'il a cachées pour lui, à tel point que le croyant espérera que toutes ses invocations ne furent pas exaucées. Parce que ce jour-là, il se rend compte à quel point Dieu a été plus sage de lui exaucer ses invocations le jour de la résurrection. Parce que ce jour-là, on aura besoin de bonnes actions, de hasanat. Et parfois, par amour pour toi, Dieu ne te donne pas ce que tu veux comme tu veux. Mais il te le donne de trois manières différentes. Et ça, il faut le savoir. D'après Abu Huraira, le prophète a dit, aucun homme n'invoque Dieu sans qu'il ne le lui réponde. Dieu répond à toutes tes invocations, si les conditions sont respectées. Hein. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut le garder en tête. Alors, regardez les trois formes d'exaucement de nos invocations. Soit la réponse est anticipée dans cette vie, Dieu te donne ce que tu as demandé ici-bas. Soit Dieu lui réserve ce qu'il a demandé pour l'au-delà, comme on vient de le dire juste avant, soit Dieu l'absout d'autant de péchés que d'invocations prononcées. Tu as fait des invocations, Dieu ne te donne pas ce que tu veux, mais il te purifie de tes péchés. Ces invocations, ce sont des absolutions de tes péchés. Tant que le croyant ne demande pas un mal, une rupture des liens de famille, ou qu'il ne s'empresse et s'impatiente dans ses implorations. Et dans d'autres hadiths, le prophète nous dit que l'invocation monte au ciel. Quand tu la prononces, elle monte au ciel. Et elle rencontre un malheur qui devait arriver. Et les deux s'annulent. C'est-à-dire que l'invocation, elle t'évite un malheur. Toi, tu penses que Dieu n'a rien fait, n'a pas répondu si. Mais comme lui, il le veut. Et parfois, il t'évite des malheurs grâce à tes invocations. Et le prophète a dit, rien ne repousse et ne modifie le destin que les invocations. Les invocations peuvent modifier ton destin. Un malheur devait te toucher et ton invocation te préserve. Et Dieu, par amour pour nous, ne répond pas à toutes nos invocations. Vous savez pourquoi? Parce que toi, tu demandes à Dieu cette nuit que demain il fasse beau. Moi, je suis un cultivateur. Je veux qu'il pleuve. Toi, tu veux aller au ski, tu demandes que demain il neige. Ça va être quoi? Le chaos. Donc, il y a des lois sur terre, et pour préserver une certaine harmonie, Dieu ne veut pas nous donner tout ce qu'on demande, parce que sinon ça va être le chaos. Certains veulent la guerre, ça leur fait gagner de l'argent. D'autres veulent la paix. Donc Dieu ne peut pas donner la paix et la guerre en même temps. Certains, toi, tu demandes à Dieu d'avoir comme épouse une telle. Peut-être que quelqu'un d'autre la réclame aussi dans ses invocations. Donc à un moment donné, Dieu ne va pas donner à tout le monde tout ce qu'il demande. Ça relève de l'impossible ici sur terre. Nous avons dit que Dieu peut ne pas répondre à tes invocations parce qu'il est en colère contre toi, parce qu'il t'aime, et maintenant parce que Dieu aime t'entendre. Dieu aime lorsque son serviteur l'implore. Le prophète nous dit, l'invocation c'est l'adoration par excellence. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation c'est l'adoration par excellence. Pourquoi ? Parce que quand tu invoques Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu reconnais qu'il existe. Tu reconnais qu'il t'entend, qu'il te voit, tu as confiance en lui, tu réclames son soutien, tu te fais humble, tu te soumets à lui. Et tout ça, ce sont des adorations. C'est même un degré d'excellence dans l'adoration. Le fait d'invoquer Dieu, ça veut dire tout ce qu'on vient de citer, et donc c'est une preuve de foi. Tu as confiance en lui, tu sais qu'il est proche, tu ne désespères pas, et tout ça c'est une preuve de foi. C'est pour ça que invoquer Dieu, c'est l'adorer. Également, le fait qu'on se taise et qu'on n'adore pas Dieu, c'est un signe de fainéantise. Le prophète nous dit, le plus incapable, c'est celui qui ne fait pas l'effort d'invoquer Dieu. Et le plus avare, c'est celui qui est avare de salutation. Il n'aime pas saluer les gens. Pire que ça, se taire met en colère Dieu. Le prophète nous dit, Dieu se met en colère quand l'adorateur ne lui demande rien. Ça, on l'avait cité tout à l'heure. Maintenant, Dieu se réjouit quand tu fais des invocations, tu lui demandes. Le prophète a dit, que l'un de vous invoque son Seigneur pour tous ses besoins, jusqu'à même demander que Dieu l'aide pour réparer la sangle de sa sandale si elle se déchire. C'est-à-dire que même les choses futiles, tu es invité à demander Dieu à t'aider et tu implores Dieu. Même si ça te paraît futile, toi tu peux le faire. Non, invoque Dieu, demande-lui de l'aide. Dieu aime ça. Même quand ta chaussure, ton lacet, je ne sais quoi, hein, se déchire, tu demandes à Dieu de t'aider. Et la preuve que Dieu aime qu'on l'invoque, ben c'est la Fatiha. On la répète 17 fois par jour. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Fatiha ? Ihdina as-sirata al-mustaqim, ya Allah, guide-nous dans la voie droite. Donc c'est une invocation. Et Dieu veut qu'on l'invoque. C'est pour ça que dans la Fatiha, il y a une invocation. Enfin, et pour terminer, Dieu ne répond pas parfois à certaines de nos invocations parce qu'il ne les aime pas. Le prophète nous a dit, sachez que Dieu ne répond pas à un cœur insouciant et distrait. Et ça nous arrive parfois. Quand on fait des invocations en groupe, la personne fait des invocations et certains sont ailleurs, le cœur distrait, l'esprit divagant. Et Dieu ne peut pas lui donner ce qu'a demandé la personne à tout le monde, puisqu'il était ailleurs. Bon, après, c'est aussi un problème de compréhension, c'est que comme c'est en arabe, on ne comprend pas l'arabe, on ne sait pas ce qu'il demande. Ça peut s'expliquer. Mais si on comprend la vocation, elle est compréhensible, on sait ce qu'il demande, il faut se concentrer et que le cœur soit présent. Et le prophète a dit que Dieu ne répond pas à certaines demandes, celle de commettre un péché. Si quelqu'un demande à Dieu de commettre un péché, tu ne vas pas lui répondre. S'il demande à ce qu'il y ait un conflit dans sa famille, donc la rupture des liens de parenté, Dieu ne va pas lui donner. Il ne répond pas. Voilà. Donc, pourquoi Dieu ne répond-il pas à nos invocations parfois ? Parce qu'on transgresse ses interdits, on délaisse l'obligatoire, et donc il est en colère. Parfois, c'est l'inverse, parce qu'il nous aime, il veut nous éviter un mal, il veut pour nous ce qu'il y a de meilleur. Parfois, il ne nous donne pas ce qu'on lui demande, afin qu'on lui demande beaucoup. Parce que s'il te donne tout de suite ce que tu lui demandes, tu vas t'arrêter de l'invoquer. Donc il veut que tu l'invoques beaucoup. Et parfois, parce que l'invocation en elle-même, c'est quelque chose de mauvais. Hein, c'est un mal, et donc Dieu ne va pas te le donner. Parce que c'est quelque chose de mauvais. La prochaine intervention, elle portera sur comment faire afin que Dieu réponde favorablement à nos invocations. Comment faire pour mettre toutes les chances de son côté afin que Dieu réponde à nos invocations? Quelles sont les conditions, les moments à choisir, l'attitude à adopter quand on invoque Dieu afin qu'il nous exauce? Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.